Journal d'Haïti et des Amériques. Bonjour Mickaël.
Bonjour Marion, il est 8h10 à Quito. L'Équateur, à la veille de nouvelles manifestations, organisations syndicales et indigènes appellent à la mobilisation sur fond de hausse des prix des carburants. Nouveau défi pour le président Lasso au pouvoir depuis le printemps dernier. On décrypte cela avec notre invité du jour. On va revenir aussi sur la chute d'Otoniel, baron de la drogue, arrêté ce week-end en Colombie. Et puis la Toussaint qui se prépare dans les Antilles. C'est à la une du journal de la première avec vous, Alex Léveillé.
Effectivement, Mickaël, nous parlerons donc de cette fameuse Toussaint aux Antilles et en Guyane avec le nettoyage des pierres tombales. Et puis nous irons aussi en Guyane avec la découverte inédite d'un fossile, celle d'un paresseux géant.
Alors, rendez-vous dans 15 minutes, Alex. Et avant tout cela, direction Haïti.
Port-au-Prince. 89.3 FM.
Haïti, au rythme des pénuries d'essence, on en a beaucoup parlé la semaine passée dans notre rendez-vous. C'est encore à la une de la presse du pays aujourd'hui. Bonjour Christophe Paget.
Bonjour.
Cette pénurie et surtout ses conséquences pour les hôpitaux haïtiens.
Oui, pénurie de carburant, la vie de nombreux nouveau-nés en danger dans les hôpitaux, s'alarme Réseau Nord-Ouest. Son titre, le site d'information rappelle que de nombreuses entreprises et institutions haïtiennes dépendent de générateurs diesel pour assurer l'électricité en raison de pannes constantes. Ce dimanche, l'UNICEF expliquait qu'il avait négocié un accord avec une entreprise locale pour fournir du carburant aux hôpitaux de Port-au-Prince et de la péninsule sur sud d'Haïti, qui a subi un tremblement de terre en août. Mais l'entreprise est revenue sur sa décision, car en pleine vague d'enlèvement, pour les dirigeants du secteur des transports, les livraisons sont trop dangereuses pour leurs chauffeurs qui risquent d'être kidnappés.
Et du coup, les hôpitaux risquent de fermer leurs portes.
C'est le titre du Nouvelliste. Selon l'organisation Nos Petits Frères et Sœurs, si aucune livraison de diesel n'est garantie au plus vite, les services de pédiatrie pour plus de 300 enfants, de maternité pour plus de 45 femmes, de soins urgents et d'hospitalisation pour plus de 70 adultes seront interrompus faute de carburant ce mardi. L'association des hôpitaux privés d'Haïti affirme elle que les hôpitaux non étatiques se verront obligés de fermer dès ce lundi si un couloir humanitaire d'urgence n'est pas établi. Elle rappelle qu'en plus des problèmes de carburant, l'insécurité empêche les employés de se rendre sereinement à leur poste et que la pénurie d'oxygène paralyse les services alors qu'il est question d'une nouvelle vague au coronavirus. L'association dit ne pas comprendre l'apathie des autorités qu'elle appelle à se réveiller et remplir leur mission.
Le dossier des carburants et de leurs prix en hausse surtout, qui fait la une également ces jours-ci en Équateur comme il y a tout juste 2 ans. Voilà, c'est en octobre 2019, plusieurs jours de manifestations mortelles à Quito contre les lieux de pouvoir après la suppression de subventions étatiques aux hydrocarbures. Alors risque-t-on de revoir ces scènes demain? Plusieurs organisations syndicales ont appelé à de grands rassemblements dans la capitale équatorienne avec toujours cette question donc du prix de l'essence en toile de fond. Pour en parler avec nous, Emmanuel Sinardet, bonjour.
Bonjour.
Responsable du Centre d'études équatoriennes à l'Université Paris-Nanterre, merci d'être avec nous. Expliquez-nous ces manifestations demain, donc je le disais, sur fond de hausse des prix des carburants. Que révèlent-elles? Elles sont la manifestation de quel malaise en Équateur aujourd'hui?
Alors, c'est un malaise extrêmement profond, lié à une terrible crise économique qui est liée elle-même à la sortie de la pandémie, mais aussi à des faiblesses structurelles de l'économie équatorienne. Mais pour que vous ayez une idée de la gravité de la situation, la contraction de l'économie en 2020 était de 7,8%. On a une dette publique de 63% du PIB et un tiers de la population est en situation de pauvreté. C'est énorme. Et cette année, et comme un effet direct de la crise sanitaire, un enfant de moins de 5 ans sur 4 souffre de malnutrition selon l'UNICEF. Donc il y a un réel malaise et le pouvoir d'achat est tellement entamé, le taux de chômage est tellement élevé que ce qui est perçu comme une atteinte au pouvoir d'achat est vécu comme une véritable catastrophe par de nombreuses familles. En réalité, une petite classe moyenne, on va dire une petite bourgeoisie avait pu émerger et elle est de nouveau ramenée dans la pauvreté. Et donc la hausse des carburants qui avaient eu lieu étaient en réalité
C'est donc un gel, il faut le réexpliquer pour nos auditeurs. Le président Guillermo Lasso a annoncé le gel du prix de l'essence qui augmentait mensuellement pour suivre les cours et la fluctuation des cours du pétrole. En revanche, dans le même temps que l'annonce de ce gel, il annonce une augmentation de 12% des prix des carburants.
Voilà, alors l'idée, c'est de, si vous me permettez, dégeler le gel afin de pouvoir baisser les prix. Mais en même temps, le gouvernement de l'asso est pris en tenaille entre ces demandes sociales extrêmement pressantes. Et nous avons tous en mémoire les mobilisations d'octobre 2019 pour exactement le même élément déclencheur qui est à l'époque la tentative de supprimer les aides au carburant. Et de l'autre côté, les pressions du FMI. Et là, le FMI presse pour exiger des réformes structurelles et notamment de nouveau la fin de ces aides au carburant, entre autres.
Alors d'ailleurs, on évoque le FMI, Emmanuel Sinardet, le président Lasso, qui avait dit « je ne signerai pas d'accord avec le Fonds monétaire international pendant la campagne ». Finalement, là, il a signé un accord. Ça peut paraître aussi comme une trahison dans ce contexte que vous nous décrivez.
Tout à fait. Et c'est un accord qui concerne non seulement les prix des carburants, mais aussi des facilités à des grandes compagnies internationales pour accéder aux ressources minières et pétrolières. C'est-à-dire c'est un retour, si vous voulez, à un mode de développement éminemment extractiviste, comme on dit, qui évidemment provoque la colère des organisations indiennes très puissantes, rassemblées, organisées autour de la CONAIE, la Confédération des nations indigènes, des nationalités indiennes. Et c'est pour ça que la CONAIE a déclaré ce week-end qu'elle était partie prenante de ces mobilisations de demain. Or, on connaît la force de frappe de la CONAIE.
Cette confédération que représentait Yacou Pérez au moment de l'élection, il est arrivé troisième à l'issue du premier tour, mais vraiment d'un cheveu, j'allais dire, avec Guillermo Lasso. On se souvient que cela avait suscité recomptage et moult débats autour de qui serait le candidat à ce moment-là qualifié pour le second tour. Aujourd'hui, ces confédérations indigènes, elles sont aussi une force au Parlement. C'est une véritable épine dans le pied de ce président, peut-être mal élu finalement.
Alors, très mal élu, vous avez rappelé en fait les chiffres. Le candidat numéro 2 qui était là, était en réalité dans un mouchoir de poche avec le candidat numéro 3, le candidat de Pachakutik, donc le parti politique de la CONAIE, Yacou Pérez, avait obtenu 19,33. 19,74 pour l'assaut, c'est-à-dire d'où l'idée de recompter. Et finalement, l'assaut l'avait emporté au deuxième tour face au candidat coréiste Andrés Araos, qui était perçu comme une personnalité clivante. Il avait joué, Lasso, une campagne de réconciliation, d'écoute, et avait promis des promesses qui s'avèrent aujourd'hui irréalisables, d'augmenter le salaire minimum à $500, il est actuellement de 400, et justement de avoir une position extrêmement forte vis-à-vis du FMI. Donc la colère est de deux côtés, du côté des mouvements dits sociaux, mais aussi du côté du Parlement où il n'a finalement aucune majorité.
Et dans le même temps, Emmanuel Sinardet, il serre la vis, on peut l'interpréter peut-être comme ça. Dites-nous, ces manifestations demain, elles auront lieu exactement une semaine après la proclamation de l'état d'exception dans le pays. Officiellement, c'est pour lutter contre l'insécurité et le narcotrafic. Très concrètement, ça veut dire que l'armée revient dans les rues.
Tout à fait, puisqu'il l'a dit explicitement, il a déclaré un état d'exception avec mobilisation des forces armées. La terminologie est fait sens et nous informe sur ce qui est véritablement, à mon sens, un tour de vis sécuritaire. On parle d'état d'urgence. Techniquement, juridiquement, c'est le même mécanisme, état d'urgence, état de siège, état d'exception. Or là, la terminologie joue un rôle. On parlait d'état d'urgence, par exemple, au moment de la pandémie, pour mobiliser toutes les forces vives du pays afin de lutter contre le Covid avec des moyens humains supplémentaires, des moyens financiers. Or là, l'état d'exception n'implique aucun moyen financier et on voit qu'il s'agit en réalité de
museler l'opposition,
donner un pouvoir
peut-être
au président.
Et c'est une manière de museler l'opposition, peut-être ?
Alors, Lasso a bien dit, au moment où il mobilisait les forces armées, qu'il respecterait la liberté d'expression et la liberté de manifestation. Je pense qu'il avait déjà en tête les manifestations de demain. Mmh. Il s'appuie sur une rhétorique éminemment sécuritaire, sachant qu'il peut se présenter comme un homme fort capable de restaurer l'ordre face à des Équatoriens qui sont littéralement désemparés, avec une augmentation spectaculaire d'agressions physiques très violentes et des images qui circulent sur Internet. Il y a quelques jours, un sprinter médaillé au championnat du monde de 2019, Alex Quiñones, très populaire, a été assassiné en pleine rue. Il est une victime collatérale de tir. Et la population ne supporte plus ce qu'elle vit comme une insécurité. Et donc, Lasso, je pense, espère regagner une popularité qui lui fait défaut en se présentant comme un homme fort. En même temps, les dates ne sont pas neutres, puisqu'il pourrait en effet utiliser cette mobilisation des forces armées pour réprimer et criminaliser les mobilisations sociales, puisqu'il suffirait finalement d'un débordement
parce qu'on a en tête aussi, Emmanuel Sinardet, ce que vous évoquiez, ces manifestations de 2019, il y a 2 ans, elles avaient fait 11 morts. On le rappelle très vite, ça sera ma dernière question. Est-ce que le terreau aujourd'hui vous semble le même qu'en octobre 2019?
Alors oui, tout à fait, puisque les mêmes attentes existent. Elles ont même été, je pense, renforcées. Il y a un sentiment d'exaspération. Elles ont été renforcées par la crise économique, mais aussi par ce discours sur lequel Lasso a été élu, Ecuador del Encuentro, l'Équateur de la rencontre, l'écoute, le souci pour les plus vulnérables. Et il y a le sentiment d'une déception et pour certains même d'une trahison.
Emmanuel Sinardet, merci beaucoup pour votre intervention. Je vous le rappelle, vous êtes donc responsable du Centre d'études équatoriennes à l'Université Paris-Nanterre.
RFI, las voces del mundo.
Et on vous retrouve, Christophe Paget, pour évoquer ce qui fait les gros titres depuis le week-end en Colombie. C'est bien sûr l'arrestation d'Otoniel, le plus puissant des chefs de gangs de narcotrafiquants.
Et un des criminels les plus dangereux de ce siècle, titre La Vanguardia, arrêté lors d'une opération mémorable. Quand les différentes forces institutionnelles décident de coopérer et de se concentrer sur un objectif commun, elles sont imparables, se félicite le journal. Même son de cloche pour El Tiempo, qui parle d'un triomphe pour le renseignement colombien, la force publique et la lutte contre le crime. Des éditorialistes des deux journaux remercient directement le président Duque et ceux qui ont rendu possible cette arrestation. Iván Duque, interrogé par El Tiempo, annonce qu'avec la capture d'Otoniel prend la fin du clan del Golfo.
Et la forme méticulosa comme se articuló la inteligencia rompiendo.
Iván Duque, que l'on entend là, préciser qu'Otoniel a été capturé à des fins d'extradition vers les États-Unis sans pour l'instant donner de date précise. Christophe, si la presse est très positive sur cette arrestation, elle reste prudente en tout cas sur ses conséquences.
Oui, la Vanguardia s'inscrit en faux par rapport au président. Depuis le temps, on sait que la fin des capots ne signifie pas la fin de leurs organisations. Ou bien le clan va se donner une nouvelle structure avec un nouveau chef, avec peut-être à la clé une guerre interne et une augmentation significative de la violence, ou bien le trafic de drogue tout entier va profondément se transformer. D'où cet éditorial assez désespéré de la journaliste Paola Ochoa dans El Tiempo. La chute d'Otoniel, le plus puissant des narcotrafiquants, la réincarnation de Pablo Escobar, l'homme le plus recherché par la DEA et les autorités colombiennes depuis 10 ans, à quoi sert-elle au reste des Colombiens ? Probablement à rien, assène l'éditorialiste, comme la chute d'Escobar n'avait servi à rien. Car après Otoniel arrive toute une nouvelle génération de trafiquants qui commencent à se disputer un commerce générant 650 000 millions de dollars par an et qui ne disparaîtra jamais, quel que soit le nombre de têtes que l'on coupe. Paola Ochoa rappelle qu'en fait, après la mort de Pablo Escobar, tout avait brutalement empiré, avec un nombre de producteurs de coca multiplié par 5 entre 1995 et l'année dernière, et une production de cocaïne multipliée par 6. La Colombie cultive aujourd'hui 80% de la coca produite dans le monde.
Voilà pour la Colombie, ce qui fait la une aux États-Unis, bien sûr, c'est cela.
A few people accidentally shot on a movie set by a prop gun
Rust, le film d'Alec Baldwin, dont le tournage a été marqué par le tir mortel de l'acteur sur la directrice de la photo, Christophe. Cela relance la question de l'utilisation des armes sur les plateaux avec des balles réelles.
Et si un accident comme celui-là arrive, il faut que quelqu'un ait été négligent, estime un professeur de droit interrogé par le Los Angeles Times. USA Today parle de protocoles de sécurité très stricts et cite les nombreuses étapes que doit traverser une arme avant d'arriver entre les mains d'un comédien. Les décès pendant les tournages sont rares, mais les acteurs et l'équipe de tournage sont souvent confrontés à des situations dangereuses, souligne le Washington Post. Du coup, une pétition circule sur l'interdiction des armes à feu sur les plateaux, annonce le LA Times. Elle demande directement à Alec Baldwin d'utiliser son pouvoir et son influence à Hollywood. La loi porterait le prénom de la jeune femme mortellement touchée jeudi, Alina. En Californie, annonce le Washington Post, le sénateur Dev Cortez compte déjà présenter un projet de loi interdisant les balles réelles et les armes pouvant les tirer sur les plateaux de cinéma et dans les productions théâtrales de l'État.
Christophe Pagé pour la presse de ce lundi. Merci beaucoup.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec de l'avance, une fois n'est pas coutume. Bonjour Alex Leveillé.
Bonjour Mickaël.
Le nettoyage des pierres tombales, c'est un rituel avant la Toussaint pour les familles aux Antilles et en Guyane.
Et au cimetière, certaines familles sollicitent les services de nettoyeurs de tombes, comme c'est le cas en Martinique, malgré la pandémie. Christine Cupit est de Martinique la première.
Cimetière de l'Ermitage à Fort-de-France, les nettoyeurs de tombes sont postés à l'entrée en quête de clients. Ce sont tous des jeunes. Pour la plupart, la Toussaint est l'occasion de se faire de l'argent de poche. Mais cette année, la crise sanitaire a changé la donne.
C'est difficile de trouver un client parce que le Covid touche. Quand il n'y avait pas de Covid, c'était mieux.
Et depuis hier, tu as fait combien de clients alors?
5-6, maxi.
En temps normal, tu en faisais combien la journée?
Ah, je sais pas, je ne comptais pas. C'était pour le job. Mais maintenant, il y a des gens qui font eux-mêmes.
On retire la terre, comme le client nous a demandé. Ça nous a pris du temps après pour la nettoyer, parce que c'est comme si une grosse tombe.
On nettoie les tombes, qui sont sales depuis les années dernières. Mais en dessous du soleil, c'est compliqué. L'année dernière, ils avaient beaucoup de clients ici, mais aujourd'hui, ce n'est pas facile.
Quelques visiteurs s'affairent déjà sur les tombes de leurs proches.
Toujours, je viens pour la Toussaint, pour mettre deux petites bougies, pour ma mère, pour mon frère, pour mes proches, quoi. Comme on a ce jour-là, alors je profite, et puis c'est pour marquer le coup aussi, hein.
Avec la fermeture des cimetières causée par les confinements successifs, certaines tombes sont en très mauvais état. Visiblement, tous les cimetières de l'île n'ont pas encore ouvert leurs portes. Certains, comme celui du Lamentin, par exemple, sont toujours fermés.
Christine Cupit de Martinique, la première. La découverte inédite d'un fossile dans la commune de Maripasoula, sur le plateau des Guyanes. Il s'agit d'un paresseux géant. Des fouilles préhistoriques ont été menées par des scientifiques. Leïla Chérubin-Jeannette de Guyane, la première.
C'est un élément du crâne. On distingue assez mal, probablement, deux dents qui ont été roulées.
Ce fossile, c'est celui d'un paresseux géant, le tout premier découvert sur le plateau des Guyanes. Morceau par morceau, le paléontologue Pierre-Olivier Antoine reconstitue une partie du puzzle.
On soupçonne qu'il est moins de 50 000 ans, donc on va le dater avec la méthode célèbre du carbone 14. Et comme on est toujours un petit peu prudent, on va essayer de le dater également par d'autres méthodes.
Eremotherium, ce paresseux herbivore, pouvait mesurer 5 mètres une fois debout et peser jusqu'à 3 tonnes. Sa taille imposante l'obligeait à se déplacer uniquement sur le sol. C'est sur le site d'Atuka, près du bourg de Maripasoula, que les recherches sont menées. Les tout premiers éléments sont extraits par un Garine Perros. 6 chercheurs débutent des fouilles sur place. D'autres éléments sont déterrés.
On sait maintenant comment chercher, où chercher. Et ce qu'on va pouvoir trouver, on peut l'imaginer, les primates, donc les petits singes, les rongeurs, les marsupiaux.
Une nouvelle ère pour la paléobiodiversité s'ouvre en Guyane. Une fois examinés dans l'Hexagone, les fossiles de ce jeune paresseux devraient revenir en Guyane.
Sujet signé, Leïla Chérubin-Jeannette de Guyane, la première. Et puis enfin, le décollage réussi pour un nouveau lancement d'une Ariane 5. C'était samedi soir. La fusée a quitté Kourou, en Guyane. C'est le vol le plus performant effectué selon Ariane Espace, c'est-à-dire l'envoi le plus lourd réalisé par le lanceur. 2 satellites de près de 11 tonnes étaient à bord. Et il s'agissait là de la 11e mission du Centre Spatial cette année. Voilà, c'est la fin de cette édition. Excellente journée à tous.
Merci beaucoup Alex Leveillé. Merci aussi à Guillaume Lebouvier qui était à la réalisation aujourd'hui de ce rendez-vous d'Haïti et des Amériques.